18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur Europe 1 pour votre grand journal du soir. On s'élance jusqu'à 20h à la une de l'actualité ce soir. Les violences policières, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement d'intervenir, c'est chose faite. Conférence de presse de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, il y a quelques minutes à peine. Le détail et les annonces est dans un instant dans votre journal, Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
18h20, la police est-elle raciste? Une contre-vérité pour Éric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes et mon invité. Dans 20 minutes, il évidemment réagira aux annonces de Christophe Castaner. 18h30, nos grandes voix, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve ce soir. Et vos questions, c'est au 39-21. Et puis deux rendez-vous à ne pas rater, après 19h cette fois. 19h20, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, alors qu'arrive demain au Sénat cette proposition de loi pour mieux protéger les victimes de violences conjugales. 19h30, les jeunes, grands perdants cette pandémie, pas de stage, pas de contrat d'apprenti, pas d'embauche, génération sacrifiée, vos témoignages chez O3921, hashtag Europe 1, n'hésitez pas, vous connaissez tout le détail du programme, on écoute ensemble le monde changer, on est ensemble jusqu'à 20h, c'est sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Le racisme n'a pas sa place dans notre société et encore moins dans notre police républicaine.
Tolérance zéro dans la police, promet Christophe Castaner, et suspension systématique au moindre cas de racisme.
Après les manifestations du week-end, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement d'accélérer et vite, la preuve sur ces questions.
Et pendant ce temps, aux États-Unis, Houston se prépare à rendre hommage à George Floyd. Nous sommes sur place ce soir.
Faut-il déconfiner plus vite et notamment à l'école? La ville de Marseille est contrainte par la justice de rouvrir ses maternelles.
C'est un casse-tête en termes d'effectifs, en termes de protocoles sanitaires à respecter. Jusqu'au dernier jour, on est emmerdé.
Dans ce journal aussi, le très délicat chantier de Notre-Dame, démontage de l'échafaudage à 40 mètres de haut.
Et puis la suite de notre tour d'Europe du déconfinement, ce soir direction la Croatie.
Il n'y a pas des embouteillages, il n'y a pas des navires de croisière. Maintenant, nous avons la possibilité de profiter de la ville.
Dubrovnik, la perle de l'Adriatique, complètement désertée. La bourse de Paris en léger recul, moins 0,4% à 5175 points.
Bonsoir Anissa, la météo avec vous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Eh bien, bonne nouvelle, le soleil revient. Mais attention, mauvaise nouvelle seulement dans le nord-ouest et le sud-est. Partout ailleurs, c'est encore nuageux et très orageux. Demain, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
C'est donc la réponse de l'exécutif aux manifestations du week-end. Les quelques 20 000 manifestants ont trouvé un écho jusqu'à l'Élysée. Consigne passée par Emmanuel Macron au gouvernement, se saisir de ces sujets. D'où cette conférence de presse de Christophe Castaner cet après-midi. Jean-Rémy Baudeau, on retient un mot d'ordre dans les propos du ministre de l'Intérieur. Tolérance zéro envers les policiers au moindre cas de racisme.
Oui, Sébastien, le ton, il se fait plus ferme au sommet de l'État sur la question de la police. Christophe Castaner continue évidemment de soutenir les forces de l'ordre. Il l'a dit à plusieurs reprises, mais il se veut plus précis et dénonce les brebis galeuses. Je refuse de dire que l'institution est raciste, mais oui, il y a des policiers racistes, a ainsi martelé le ministre de l'Intérieur. Et pour tenter de rétablir la confiance entre la population et les forces de l'ordre, pour promouvoir l'exemplarité des fonctionnaires de police, Christophe Castaner a fait plusieurs annonces. Il envisage systématiquement des suspensions pour chaque soupçon avéré de racisme, demande à ce que les contrôles d'identité ne soient jamais un critère d'évaluation. Il invoque une réforme des inspections pour, je cite, plus d'indépendance. Enfin, en citant de lui-même la mort de Cédric Chouviat, ce livreur décédé en janvier dernier lors d'une interpellation, Christophe Castaner annonce la fin d'une technique controversée. Écoutez.
La police française, ce n'est pas la police américaine. Mais des questions légitimes se posaient. Après plusieurs mois de travail, j'ai décidé de prendre des mesures, car personne ne doit risquer sa vie lors d'une interpellation. La méthode de la prise par le cou, dite de l'étranglement, sera abandonnée et ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C'est une méthode qui comportait des dangers. Par ailleurs, si un policier ou un gendarme doit maintenir quelqu'un au sol lors de son interpellation, il sera désormais interdit de s'appuyer sur sa nuque ou son cou.
Voilà, le racisme n'a pas sa place dans notre société. Voilà les phrases que Christophe Castaner a répétées. En première ligne, demain, c'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui se rendra dans les quartiers pour parler lutte contre les discriminations. L'exécutif tout entier mobilisé, qui ne veut pas laisser planer le doute sur sa volonté de lutter contre le racisme et toute forme de violence dans la police. Tout ça sous le contrôle d'un Emmanuel Macron qui, pour l'heure, reste en retrait sur cette question.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Et cela intervient au moment où l'IGPN, la police des polices, rend public ses chiffres. Europe 1 vous les révélait dès ce matin. Jamais l'IGPN n'a été autant sollicité pour faire la lumière sur des interventions policières. Le nombre d'enquêtes a même bondi et de 23% l'an dernier.
Des enquêtes notamment liées aux opérations lors des manifestations des Gilets jaunes, mais on ne sait pas combien ont abouti à des condamnations. Un sujet dont s'est aussi saisi le défenseur des droits Jacques Toubon rendait aujourd'hui son rapport, Salomé Legrand. Rapport qui alerte sur, je cite, une crise de confiance entre la police et les citoyens.
Et oui, Jacques Toubon fait état d'une hausse de près de 30% des dossiers liés à la déontologie de la sécurité. Près de 2000 contestations reçues sur ce thème l'an dernier. Alors, ces services ont conclu à un manquement des forces de l'ordre dans seulement 10,7% des cas. Mais il appelle à une prise de conscience des autorités pour sortir, je cite, des logiques guerrières. Il note au passage que depuis le début de son mandat, il y a 6 ans, il a réclamé des poursuites disciplinaires dans 36 dossiers, mais aucune n'a été suivie des faits. Par ailleurs, il demande à mettre en place une traçabilité des contrôles d'identité pour évaluer la façon dont ils sont mis en œuvre et leur utilité. L'autre grand sujet de préoccupation du défenseur des droits, en résonance avec la mobilisation des Gilets jaunes, c'est le recul des services publics avec 62 000 réclamations en 2019. Il déplore leur dématérialisation à marche forcée et la fracture numérique qui s'accroît dans le pays avec, je cite, le sentiment d'abandon d'un certain nombre de populations.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Aujourd'hui, une nouvelle manifestation à Nantes a rassemblé quelques 2000 personnes. Demain, un autre rassemblement a lieu à Paris et dans quelques autres villes à l'appel de SOS Racisme.
On va en reparler avec mon invité juste après le journal. Le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, nous rejoint dans ce studio à 18h20 précisément. Et les grandes voix s'emparent également de ce sujet dès 18h30. Charles Villeneuve versus Gérard Carrérou.
Pendant ce temps, aux États-Unis, le point de départ de ces mobilisations. Le policier Derek Chauvin, désormais poursuivi pour meurtre après la mort de George Floyd, doit comparaître pour la première fois devant un juge aujourd'hui, au moment même où un quasi-hommage national se prépare à Houston, la ville où a grandi cet Afro-Américain. Vous êtes sur place pour Europe 1, Xavier Yvon. Ceux qui le souhaitent peuvent, dès aujourd'hui, se recueillir sur sa dépouille.
Oui, les portes de l'église ouvrent dans une heure et il y a déjà des dizaines de personnes qui attendent à l'ombre de la chaleur écrasante de Houston. Il y a de l'ambiance musicale, je ne sais pas si vous pouvez entendre derrière moi. La première dans la file, c'est Vicky, avec son masque noir sur lequel est inscrit « Je ne peux pas respirer ». Elle est arrivée tout ce matin, 5 heures en avance.
C'est un honneur de pouvoir voir de mes yeux ce moment historique qui va changer tant de vies à travers le monde, je pense. Il ne sera pas mort en vain. Il y a des gens de tous les États-Unis ici. C'est magnifique de se rassembler et de fraterniser avec tout ce monde. Mais voir cet homme qui a été tué de cette manière, ça va me déchirer le cœur encore un peu plus.
D'ici une heure, donc, elle pourra entrer dans l'église pour voir le cercueil ouvert de George Floyd avec masque et gants, 10 minutes maximum, coronavirus oblige. Pas plus de 15 personnes en même temps. Le défilé devant la dépouille va durer tout l'après-midi pour un homme qui était un inconnu il y a encore 2 semaines et qui aujourd'hui, vous l'avez dit, a droit à des honneurs quasi nationaux. Demain, ce seront les obsèques privées et enterrement aux côtés de sa mère qu'il a élevé dans un quartier déshérité à quelques mètres d'ici.
Xavier Yvon, envoyé spécial et en direct de Houston au Texas, et pardon pour cette liaison un peu difficile. Image forte au Congrès à Washington également, où des démocrates se sont agenouillés pendant 8 minutes et 46 secondes, la durée de l'agonie de George Floyd. La ville de Minneapolis annonce qu'elle va réformer en profondeur sa police. On en reparlera avec Didier François à 19h.
Il est 18h08 sur Europe 1. La suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Mais cette question qui revient en boucle, faut-il aller plus vite dans le déconfinement? Les indicateurs sont au vert, l'épidémie recule et de plus en plus de voix réclament un assouplissement des mesures sanitaires.
La Confédération des PME, par exemple, qui demande une date pour un retour à la normale. Et à Marseille, ce sont des parents d'élèves qui ont engagé et gagné une bataille en justice pour obtenir la réouverture des petites sections de maternelle. La ville a été condamnée vendredi à les rouvrir alors qu'elle ne comptait pas accueillir les enfants avant le mois de septembre. Bien sauf que dans les faits aujourd'hui, Nathalie Chevance, bien pour l'instant en tout cas, ce n'est toujours pas le cas.
C'est ça, et pour le moment, la mairie ne donne aucune date pour la réouverture des classes de petites et très petites sections. Il faut d'abord que chaque directeur d'école contacte les parents pour savoir ce qu'ils comptent faire. On nous explique que tout cela prend du temps, même si dans certains établissements, on constate davantage de volonté. Quelques places seront même attribuées dès demain pour les tout-petits, mais c'est vraiment au cas par cas, ce que dénonce Nassima Ferchiche, l'une des plaignantes, maman d'une petite fille de 3 ans.
Ce qui me choque le plus, c'est le manque d'information, le manque de considération finalement des parents et de leurs enfants. Cette rupture des enfants avec l'école, alors que même si c'est des toutes petites sections, ils ont goûté à l'école. Et du jour au lendemain, c'est terminé jusqu'en septembre. C'est pas l'histoire d'un mois, c'est l'histoire de 6 mois finalement de rupture. C'est pas acceptable. L'école, c'est aussi une garantie de lutte contre les inégalités sociales.
Et pour le tribunal administratif, rien ne justifiait la fermeture généralisée des classes de petites et très petites sections, alors que la mairie, elle, évoque des problèmes matériels, une organisation compliquée à mettre en place, estime aussi Arabelle Loza, responsable FO de la section des écoles.
C'est un casse-tête en termes d'effectifs, en termes de protocoles sanitaires à respecter. On ne connaît pas le chiffre exact du nombre d'enfants que les parents veulent remettre. Jusqu'au dernier jour, on est emmerdé.
Mais pour les parents qui ont porté l'affaire devant les tribunaux, il est primordial que leurs enfants retournent en classe d'ici les grandes vacances, même de façon alternée et pour quelques jours.
Nathalie Chevance en ligne de Marseille pour Europe 1. Aujourd'hui, les aéroports de Lyon et Nantes ont rouvert aux vols commerciaux. Les examens du permis de conduire ont aussi repris. Et dès le 22 juin, les voyages seront possibles vers les territoires d'outre-mer. Et cela sans motif impérieux. Le nombre de vols va progressivement augmenter.
Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Un échafaudage éventré qu'il faut démonter à 40 mètres de haut. Une étape cruciale du chantier de Notre-Dame qui a démarré désormais. C'est à suivre.
Et puis notre tour d'Europe du déconfinement nous emmène ce soir en Croatie, direction Dubrovnik.
Europe 1. 18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Des écureuils à l'assaut de Notre-Dame. Ah oui, c'est une étape pour le moins délicate qui a débuté aujourd'hui sur le chantier de la cathédrale.
Oui, ces écureuils, ce sont ces ouvriers encordés chargés de retirer l'échafaudage éventré qui est toujours sur le toit depuis l'incendie. Hélène Terzian, vous êtes sur le parvis. Ce sont 200 tonnes de tubes métalliques enchevêtrés qu'il faut démonter, et cela donc à 40 mètres de haut.
Effectivement Sébastien, et c'est pour cette opération extrêmement périlleuse que depuis ce matin, les grues et les nacelles qui encerclent l'échafaudage s'animent. C'est là que l'on aperçoit d'ailleurs les silhouettes des ouvriers qui ont pour mission de démonter délicatement les 40 000 pièces qui composent ce château de cartes d'acier. Une construction, on le rappelle, qui avait été installée avant l'incendie pour restaurer la flèche désormais disparue. Alors face à ce chantier, certains passants comme Daniel ont tenu à venir saluer le travail titanesque qui commence aujourd'hui.
On vient essayer de lui donner un peu de notre force, comme un être cher. Comme ceux qui ont bâti la cathédrale, eh bien, ceux qui la font revivre, c'est pareil. C'est des gens qui seront attachés au destin de la cathédrale. Les cordistes, les architectes, les techniciens, tous. C'est un travail d'équipe, extrêmement méticuleux, extrêmement. Je pense qu'ils travaillent autant avec leur savoir que leur cœur. Voilà, c'est comme un chirurgien qui va sortir un être humain d'une très mauvaise passe. Et ben, c'est pareil.
Pour que cette opération à cœur ouvert soit un succès, eh bien c'est surtout l'heure des dernières vérifications. Demain, deux équipes de 5 cordistes, les fameux écureuils, vont se relayer au plus près des parties calcinées. Ils vont découper des tubes métalliques fondus les uns sur les autres au moment de l'incendie. Des morceaux qui seront ensuite évacués par la grande grue jaune installée ici. Une étape, Sébastien, qui va durer tout l'été et qui est cruciale pour la suite de la reconstruction de la cathédrale.
Voilà, pas le droit à l'erreur. Hein. Hélène Terzian en direct de Notre-Dame de Paris, ce chantier donc qui reprend après une longue interruption due au confinement.
Et le déconfinement justement qui se poursuit à l'étranger, mais avec des mesures strictes quand même outre-Manche en Grande-Bretagne.
Oui, depuis ce matin, quatorzaine obligatoire pour toute personne qui entre au Royaume-Uni, même ceux qui y habitent, mesure d'ailleurs critiquée en Europe. En Espagne, l'intérieur des restaurants rouvre à Madrid, comme à Barcelone, où on a à nouveau le droit de se baigner à la plage. Et puis la Russie annonce une réouverture partielle de ses frontières et la fin du confinement demain à Moscou.
Et nous allons ce soir un peu plus au sud, encore en Croatie désormais. Nouvelle étape de notre tour d'Europe.
Avec Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes arrivé en Croatie, donc la perle de l'Adriatique, Dubrovnik.
Oui, Dubrovnik avec son impressionnante forteresse du XVIe siècle, une muraille qui s'avance sur la mer et un dédale de rues étroites et escarpées. À cette époque de l'année, normalement, les touristes se bousculent pour avancer, mais là, tout sonne creux, les rideaux des magasins sont baissés, un calme très inhabituel qui séduit Tony, un habitant de la région. Il redécouvre Dubrovnik avec son ami.
Maintenant, nous avons la possibilité de profiter de la ville parce qu'il n'y a pas des embouteillages, il n'y a pas des navires de croisière. Et c'est bizarre, mais nous sommes allés pour voir toutes les églises et après nous allons monter sur les remparts et nous allons profiter de notre ville.
C'est tout de même inquiétant pour les autorités qui tentent d'établir des corridors d'accès pour attirer une clientèle étrangère. Le tourisme, c'est 20% du PIB ici, mais rien n'y fait. Ni les Croates, ni les étrangers ne viennent jusqu'ici, alors le pays attend avec impatience la réouverture des frontières européennes le 15 juin.
Voilà le cadre fabuleux de Dubrovnik sans les foules de touristes. La chance, Jean-Sébastien Soldaini en Croatie.
Ouais. Merci beaucoup Sébastien Krapp. De nouvelles infos à 18h30. Anissa, du côté du temps, de petites éclaircies qui réapparaissent demain.
Ah, je vous reconnais bien là Nathalie. Je vois que vous voulez commencer par les bonnes nouvelles et le retour du soleil. Bon, on va commencer par là si vous voulez. Alors ces éclaircies dont vous me parlez, elles concernent principalement demain le centre, la Bretagne, les pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le nord et la région parisienne. Donc un bon quart nord-ouest où le soleil va donc briller une bonne partie de la journée. Au bord de la Méditerranée aussi, le temps est ensoleillé, sec et ensoleillé, mais attention, il n'est pas tout seul le soleil puisqu'il est accompagné du Mistral et de la Tramontane qui vont souffler jusqu'à 70 km/h demain. Partout ailleurs, alors là c'est une autre affaire, partout ailleurs c'est nuageux et pluvieux, des Ardennes à l'Occitanie en passant par la Bourgogne, l'Auvergne, le Limousin, les Pyrénées. Après une matinée très couverte, les orages éclatent demain après-midi. Attention, encore une activité électrique assez forte à l'est, sur tout le long de la frontière de l'est, de l'Alsace à la Côte d'Azur. Là aussi un temps très humide avec sur les Alpes du Sud demain après-midi des averses de grêle avec de forts cumule, prudence. 7 à 12 degrés, ce sont les températures que nous aurons demain matin. Et puis dans l'après-midi, ça grimpe au bord de la Méditerranée. 25 à Montpellier, 24 à Marseille, 20 à Paris seulement et 18 à Clermont-Ferrand.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Nathalie Lévy et votre invité dans un instant, Nathalie.
Et oui, il va réagir aux annonces de Christophe Castaner il y a quelques minutes sur la question du racisme et des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur qui réclame une tolérance zéro à ce sujet. Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, est mon invité dans un instant, dans moins de deux minutes, c'est sur Europe 1.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et vous recevez à 18h20 le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti.
Bonsoir Éric Ciotti.
Bonsoir.
Bienvenue à mon micro sur Europe 1. Première réaction ce soir à la prise de parole de Christophe Castaner à la demande d'Emmanuel Macron suite à ses mobilisations en soutien à George Floyd. Il s'est exprimé très clairement en réclamant au sujet du racisme dans les forces de l'ordre, une tolérance zéro. On va refaire un petit point rapide. Interdiction de la méthode controversée d'étranglement, formation des agents, sanctions, c'est-à-dire suspension systématique pour chaque soupçon avéré de racisme. Tout cela, c'est encore un soutien aux forces de l'ordre, Éric Ciotti ?
Il y a eu un soutien dans les mots. Il y a des mesures, et ces mesures individuellement, en tout cas, certaines d'entre elles sont utiles. Hein. Je pense à l'utilisation plus généralisée des caméras piétons
hein. Lors des contrôles d'identité.
C'est une demande que j'ai personnellement formulée. Je crois que ça serait une mesure de protection, à la fois pour les forces de l'ordre, parce qu'elles sont très souvent victimes de faux procès et de manipulations. Donc, ces caméras piétons sont aussi un élément de sécurité des forces de l'ordre. Et puis, naturellement, pour les personnes qui se trouvent en situation de confrontation avec les forces de l'ordre. Après, il y a des mesures sur la formation. Elles sont naturellement utiles. Mais pourquoi Christophe Castaner ne les a-t-il pas prises jusqu'alors ? Il a même diminué les heures de formation. Les formations aux techniques d'interpellation et au tir, par exemple, c'est à peine 12 heures par an. Mais donc, il y a eu une diminution. Après, il y a une mesure que j'aimerais comprendre. Bon, il faudra sans doute des explications. La suspicion systématique en cas
de soupçon avéré.
Alors, attention de ne pas réhabiliter la loi des suspects. La suspicion n'est pas une preuve. Moi, j'attends qu'il y ait quand même des enquêtes équilibrées. Peut-être que la justice soit saisie, mais attention à ce que des délinquants ne trouvent pas une faille pour systématiquement s'opposer aux policiers, puisque s'il y a simplement une dénonciation, voilà, j'ai reçu des messages de certains policiers qui auraient attendu aussi, au-delà des mots, un peu plus de soutien.
J'entends. Mais justement, Éric Ciotti, je suis presque surprise ce soir de votre réaction, parce que je m'attendais à quelque chose de plus critique. Peut-être du type « il va trop vite, il réagit face à la pression médiatique, on a vu ses mobilisations très fortes et encore demain ». Action-réaction, sans même mettre les syndicats de policiers autour d'une table.
Toute disposition qui permet de mieux lutter contre des actes racistes, d'où qu'ils viennent et dans quelque institution que ce soit, naturellement, sont les bienvenus. Le racisme est une abomination.
Donc vous concédez qu'il y a du racisme, des faits de racisme et des paroles racistes dans les forces de l'ordre parmi...
Il peut y en avoir. Ce sont des dérives individuelles. Ce que je conteste et ce que je dénonce avec force, c'est ce procès collectif totalement injuste et disproportionné qui est fait à la police de France. La police de France, elle est républicaine. Elle est au service de la loi, elle est au service de la protection de tous. Et je dis, j'aurais attendu aussi de la part du ministre de l'Intérieur qu'il dépose des plaintes contre ceux qui ont porté des messages de haine contre la police, contre Camilla Jordana.
Et ça, il y a été
très
peu fait.
Qui a dit que la police massacrait des citoyens. On voit sur les réseaux le déferlement de haine de certains qui veulent déstabiliser notre société.
Qu'aurait dû dire aujourd'hui Christophe Castaner à ce sujet ? Il y a été très peu fait allusion.
Mais bien sûr, mais j'attends aussi qu'il y ait des réponses sur les actes contre les policiers qui sont extraordinairement violents, de plus en plus fréquents, dangereux. Il y a aujourd'hui, il faut le savoir, en moyenne 100 agressions, plus de 100 agressions par jour contre des policiers et des gendarmes.
Et donc c'est pour ça que j'y reviens. Est-ce que vous trouvez le discours de Christophe Castaner et les mesures annoncées équilibrées ?
Je pense qu'un soutien plus affirmé à la police républicaine aurait été nécessaire au travers d'actes concrets. Les mesures qu'il prend, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Dans la mesure où cela va dans le sens d'une plus grande protection, je n'y suis pas opposé et transparence. Mais pour qu'on soit cohérent et pour qu'on ne laisse pas les policiers livrer à une vindicte qui soit totalement injuste, il faut qu'il y ait une réponse et des actes contre ceux qui agressent les policiers.
Mais ce n'est pas pour autant une tolérance zéro trop unilatérale.
S'il y a ces incidents aussi, c'est parce que des gens ne se soumettent pas à la loi. Quand on demande à un délinquant d'obtempérer et qu'il refuse, il faut bien l'interpeller. Bien sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait des pressions sur le coup, je l'entends, mais il faut aussi que ceux qui agressent les policiers, notamment, fassent l'objet de sanctions plus fortes. J'ai proposé il y a plusieurs mois, plusieurs années même, des peines planchers systématiques contre ceux qui agressent les policiers. Il faut aussi cette réponse.
Éric Ciotti, justement, vous soutenez-vous aujourd'hui un projet de loi qui prend le contre-pied? Il interdit la diffusion de toute image de policiers, gendarmes ou douaniers dans l'exercice ou non de leurs fonctions. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est l'objectif de cette proposition?
L'objectif, c'est de protéger les policiers, de flouter leur image, non pas...
De les protéger ou justement de dissimuler?
Bien sûr, de les protéger, parce que n'oubliez pas les agressions dont certains policiers ont été victimes.
Mais c'est dangereux dans ce contexte, Éric Ciotti. Ça peut être pris comme de la provocation, comme de la dissimulation.
Cette proposition de loi date d'un mois. Elle était bien avant les faits de ce qui s'est passé aux États-Unis. Elle a été déformée, elle a été détournée. On a dit que j'ai voulu interdire de filmer.
C'est ça.
J'interdis simplement, je souhaite dans cette proposition de loi, interdire la diffusion d'une image identifiable. C'est le titre de la proposition de loi. Il faut être précis.
Donc elle tient toujours cette proposition.
Des accusations. Bien sûr qu'elle tient toujours. C'est une demande forte des policiers. Vous savez le nombre de policiers qui sont pris pour cible, qui sont attaqués. Pensez quand même, ça fera bientôt 4 ans à Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin qui ont été assassinés chez eux devant leur enfant de 3 ans parce qu'on avait eu connaissance de leur identité. N'oublions pas ces policiers aujourd'hui. Je voudrais qu'on pense à eux.
Bien sûr.
Parce que ce sont eux qui nous protègent. Ils ont fait face à la menace islamiste, ils ont fait face à la violence dans la rue.
Éric
ils sont
Ciotti,
là pour nous protéger
Éric
aussi.
Ciotti, est-ce que Christophe Castaner, aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, remet en cause en tant que ministre de l'Intérieur, a l'entière responsabilité des violences policières ?
Le ministre de l'Intérieur donne des instructions, une doctrine notamment du maintien de l'ordre. Là encore, sur les gilets jaunes, on a demandé aux policiers d'aller au contact. Et c'est une position que je peux comprendre, mais il faut pas laisser la responsabilité aux seuls policiers. Les policiers, ils obéissent à des ordres aussi. C'est un peu trop facile de dire c'est les policiers qui ont eux seuls la responsabilité de ces incidents. On leur a demandé d'exécuter une nouvelle doctrine du maintien de l'ordre en allant au contact. Et aujourd'hui, on a le sentiment de leur reprocher. Je trouve qu'il y a une part d'injustice dans cette attitude.
Christophe Castaner est toujours aux commandes. Il a intérêt à être maintenu. On parle d'un remaniement de plus en plus. Christophe Castaner au poste de ministre de l'Intérieur pour finir ce quinquennat. Cela fait sens pour vous? Ce sera ma dernière question.
C'est le choix du président de la République.
Oui, mais
moi,
vous connaissez cette mission, mais personne.
Que la sécurité des Français soit assurée. Et on va vers une crise sécuritaire, j'en suis malheureusement profondément convaincu, notamment du fait des 15 000 libérations anticipées, enfin de la baisse du nombre de détenus. Donc il y aura plus de violences dans les jours qui viennent, je le crains. Il y aura également des violences sociales. On voit qu'il y a l'extrême gauche qui menace. Donc il faut un ministre de l'Intérieur qui tienne la barre. Et il faut un ministre de l'Intérieur qui ait aussi la confiance des policiers.
Il la tient, Éric Ciotti?
C'est un débat qui est ouvert. Les bilans, en tout cas, ne plaident pas dans le sens de l'efficacité pour lui.
Pour Christophe Castaner. Merci beaucoup, Éric Ciotti, d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1. Merci beaucoup.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Les grandes voix qui s'installent dans ce studio, bien sûr. Gérard Carrère versus Charles Villeneuve. On revient sur ces violences policières et les annonces de Christophe Castaner. Ça se passe sur Europe 1 et c'est jusqu'à 19h avec eux.
Europe 1.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Christophe Castaner promet la tolérance zéro contre le racisme dans la police et la suspension systématique des agents au moindre soupçon avéré. Le ministre de l'Intérieur veut aussi une réforme des inspections pour qu'elles soient plus indépendantes et annonce l'abandon de la méthode dite de l'étranglement utilisée pour certaines interpellations. De nouveaux appels à manifester en France ont été lancés pour demain. Aux États-Unis, à la veille des obsèques de George Floyd, la foule se presse pour se recueillir devant son cercueil disposé dans une église de Houston où il sera inhumé demain. Le monde connaît sa plus vaste crise économique depuis 150 ans, alerte la Banque mondiale qui attend une contraction de plus de 5% l'année prochaine et qui estime que près de 100 millions de personnes pourraient tomber dans l'extrême pauvreté. Le géant pétrolier britannique BP annonce 10 000 suppressions d'emplois. Dans l'aérien, la filiale autrichienne de Lufthansa Austrian Airlines va bénéficier d'une aide publique de 450 millions d'euros. En France, un nouveau dispositif de chômage partiel doit être défini. Il resterait en vigueur pendant 1 ou 2 ans. Le déconfinement, oui, mais pas trop vite, plaide le ministre de la Santé Olivier Véran face aux demandes d'assouplissement des mesures sanitaires. Et puis le procès de la corruption dans le sport, l'ancien patron mondial de l'athlétisme, le Sénégalais Lamine Diack, 87 ans, devant les juges parisiens aujourd'hui, accusé d'avoir protégé les athlètes russes dopés. On y revient dans le journal de 19h.
Merci Sébastien, à tout à l'heure. Merci sans faute. Anissa, des nuages demain?
Oui, des nuages sur quasiment tout le pays, c'est encore nuageux, très orageux demain. Alors cela concerne les régions qui vont du sud-ouest jusqu'à l'Alsace en passant par le Limousin, l'Auvergne, le Jura, la Bourgogne et puis tout le long de la façade est de l'Alsace à la Côte d'Azur, avec dans l'après-midi sur le Massif central, le Limousin, la région Rhône-Alpes et puis surtout les Alpes du Sud, de violents orages accompagnés de grêles, donc grande prudence. En fait, le soleil sera présent demain uniquement sur le nord-ouest et le sud-est. Les températures, 7 à 12 degrés demain matin et 14 à 26 degrés, 14 au Puy-en-Velay et 26 du côté de Bastia demain après-midi.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Et Nathalie, comme chaque jour, jusqu'à 19h, vous êtes entourée des grandes voix. Ce soir avec vous, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Et oui, le duo du lundi. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue.
Bonsoir.
Est-ce que vous avez écouté Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur? Oui, forcément, c'était il y a quelques minutes. Évidemment, cette conférence de presse pour faire des annonces après ces mobilisations et notamment ces attaques sur les questions du racisme dans les forces de l'ordre. Écoutons le ministre de l'Intérieur.
Je veux une tolérance zéro contre le racisme dans notre République. Je veux que chacun sache que quand on porte l'uniforme bleu de la loi, on ne se situe jamais au-dessus d'elle. On se doit, au contraire, plus encore que d'autres, d'être exemplaire. Alors, je veux une tolérance zéro contre le racisme chez les forces de l'ordre.
pour rétablir la confiance avec la population. Voilà, action, réaction, très rapidement, Christophe Castaner qui fait un certain nombre d'annonces, Gérard Carrérou.
Oui, alors il faut dire, rappeler que c'est la première réaction gouvernementale ou de l'exécutif aux manifestations qui se sont tenues la semaine dernière. Mardi l'une dernier. Avec 20 000 personnes et l'autre, les autres à travers la France avec à peu près 23 000 personnes selon les chiffres officiels. Alors, j'avoue que, écoutant cette première réaction gouvernementale, j'ai été extrêmement surpris. Mais je dirais même très désagréablement surpris. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'on avait entendu ? Vous me permettez un tout petit florilège de ce qu'on avait entendu pendant les manifestations. C'est entre guillemets tout ça. Hein. L'État, ce sont les dirigeants qui ont parlé dans ces manifestations. L'État français donne le permis de tuer les Noirs. La France, un État totalitaire, colonialiste, esclavagiste et terroriste. L'État abattre l'État, les flics et les fascistes. France assassin et Castaner assassin. D'ailleurs, il n'a pas répondu à cette mise en cause.
C'est vrai.
Et face à ça, donc qui vient de la brigade anti-négrophobie et de la Ligue de défense des Noirs africaines ou africains. Face à ça, je m'attendais quand même à une réaction très forte du ministre de la police, de défense de sa police, et bien sûr aussi de dénonciation du racisme. Parce que le racisme, c'est une chose abjecte, je suis d'accord avec lui, et quand chaque fois qu'on en trouve du racisme, et a fortiori dans la police, il faut prendre effectivement les moyens de l'extirper. Mais il y avait que ça. Il y avait ce deuxième volet, le volet de soutien, une police
que
les Français soutiennent à 85%. Sûr. Il y a eu des chiffres qui ont été publiés ce matin. 85% des Français, et c'est très bien ainsi, soutiennent la police. Mais je n'ai pas eu l'impression que le ministre de la police soutenait ardemment sa police. Je n'ai pas entendu encore les réactions des syndicats policiers. Je doute qu'ils soient extatiques.
Évidemment, Charles Villeneuve, est-ce que vous avez la même lecture que Gérard ? Est-ce que vous n'avez pas vu ou entendu vous, quelque chose de très unilatéral dans la prise de parole de Christophe Castaner ?
Non, c'est-à-dire que la tolérance ne peut être que zéro en matière de racisme, de toute façon, dans les forces de sécurité. C'est tout à fait, je trouve, normal. Mais d'ailleurs, pour moi, le point le plus important, si vous voulez, bon, il y a évidemment la suppression de la méthode d'étranglement. Ils auraient dû s'inspirer depuis longtemps, d'ailleurs, du rugby qui empêche le plaquage au niveau du cou, etc. C'est vrai que c'est dangereux. C'est vrai, tout ça, indéniablement. Mais pour moi, le point le plus important des réformes, c'est la formation. D'ailleurs, la commission d'enquête parlementaire du Sénat, dans son rapport sur les forces de sécurité, soulignait la médiocrité du recrutement, du niveau notamment de recrutement. Et il faudrait rehausser au moins le niveau du recrutement et surtout une formation continue et s'inspirer aussi, mais ça je ne l'ai pas vu dans les annonces, de la pratique de plus en plus du dialogue instituée dans la police anglaise.
Mais là, il n'y a rien de neuf sous le soleil, si je peux me permettre, Charles. C'est-à-dire que j'en parlais avec Éric Ciotti il y a quelques minutes. La formation, elle a déjà été questionnée. Il a déjà été question de la revoir. Les annonces, là, du jour...
Oui, non, mais il faut aller plus loin que de la revoir.
Bien sûr.
Il faut, de toute façon, vraiment former de manière extrêmement continue. Parce que la formation, elle n'est pas seulement au niveau du recrutement. Elle est aussi de manière continue. Et c'est vrai que... Je trouve que sur ce plan-là, il y avait beaucoup de choses à revoir.
Mais on ne met pas les syndicats autour de la table, normalement, pour parler formation, messieurs ?
Si, il les reçoit, les syndicats, de toute façon, parce que dans le détail, si vous voulez, là, il l'a annoncé, d'ailleurs, c'est dans l'une de ses conclusions, il est bien évident que les syndicats de police, parce que, vous savez, le ministre de l'Intérieur gère la police, gère les forces de sécurité. Moi, je dirais que le ministre de l'Intérieur co-gère la police et co-gère avec les officiers supérieurs et généraux de gendarmerie la gendarmerie, qui elle est formée sur une méthode, si vous voulez, une mentalité et une formation militaire. C'est pas la même chose.
Il n'empêche, Charles, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit sur les mesures, mais il n'empêche que pour quelqu'un qui écoutait. D'où vient tout ça de ce qui s'est passé aux États-Unis ? Il y a eu depuis des manifestations un peu partout en Europe et il y en a eu en France. Elles ont rassemblé, j'ai dit les chiffres. Ouais. Bon, c'est à la fois beaucoup et c'est On est quand même loin, 23 000 personnes dans toute la France, on est loin des 300 000 qui étaient.
Vous voulez dire qu'on sent la panique
mais on a l'impression, c'est ça que vous avez tout à fait raison.
Attendez, je ne
veux pas. On a l'impression de panique du pouvoir qui a peur d'un embrasement
voilà,
des banlieues et qui est prêt à tout de suite. Bon.
Vous en gardez un tout petit peu, messieurs. Jean-Yves Nafjara-Carrero, on se retrouve dans un petit instant pour voir effectivement pourquoi cette précipitation. À tout de suite, les grandes voix.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, Gérard Carrero et Charles Villeneuve.
Oui, et on revient bien entendu sur ces événements d'abord partis des États-Unis avec la mort de George Floyd et puis venus en France avec ces mobilisations depuis la semaine dernière et désormais la prise de parole de Christophe Castaner qui annonce des annonces dans la police. Cette question d'Abdelkrim, un auditeur ce soir qui nous appelle. Bonsoir au 3921.
Oui.
Bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir. Merci.
Je vous en prie, posez votre question.
Bah écoutez, moi, c'est par rapport à la discrimination qu'on peut subir parfois. Et je dirais que c'est que le sens de la valeur probante d'un policier. Mmh. C'est-à-dire que quand nous, on est victime, normalement, les lois devraient nous protéger. Et j'ai constaté, à grand regret et avec une énorme souffrance morale, quand vous croisez un policier qui ne respectent pas le droit, et ça arrive, hein, la grande majorité des policiers sont respectueux du droit. Alors ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une rupture de droit face à la valeur probante d'un policier ? Parce que cette rupture de droit revient à dire que la démocratie est une roulette russe, et la malchance de croiser un policier qui discrimine.
Voilà. Alors, Charles Villeneuve va commencer.
Vous voulez dire par là que le témoignage du policier prévaut à votre témoignage, parce que ça vous est arrivé sans doute.
C'est même pire que ça, monsieur. C'est que moi, j'ai porté plainte devant l'IGPN. Oui. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites, des confrontations qui ont prouvé que le policier a menti, hein, et j'ai ramené deux témoignages, des vidéosurveillances, 41 éléments factuels qui contredisent la version du policier, dossier classé sans suite.
Mais est-ce que vous vous êtes retourné vers la justice ? Est-ce que vous avez porté plainte ?
Oui, j'ai porté... En réalité, j'ai écrit au procureur, j'ai fait un dossier de centaine de pages de preuves.
Et alors, il vous a répondu ?
Classé sans suite.
Oui, et donc c'est-à-dire que vous n'avez pas pu faire la preuve, mais peut-être vous n'avez pas apporté la preuve décisive qui faisait que l'enquête pouvait déboucher sur une ouverture d'information.
Non, parce que je m'excuse,
puisque c'est classé sans suite. Si le procureur a classé sans suite, c'est qu'il n'avait pas les éléments pour ouvrir une information.
Photos de vidéosurveillance, deux témoignages.
De toute façon, toute discrimination, monsieur Abdelkrim, toute discrimination est condamnable. Hein. Il n'y a pas de raison. Il y a même toutes les raisons de ne pas faire de discrimination. Mais il peut y avoir dans des dossiers, effectivement, une erreur. Bon. Ouais. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est
non,
pas...
Non, mais il a répondu là-dessus, oui, Castaner, oui, d'ailleurs, parce qu'on lui a posé la question.
Oui, on lui a posé la question.
Pour nous prendre une sanction de suspension, une poursuite judiciaire, il faut que les éléments de preuve soient apportés.
Absolument.
Parce que entre l'intime conviction et la preuve, c'est la preuve qui l'emporte.
Oui. Mais moi, c'est pas ça. Je dis ça, c'est quelque chose. Bon, c'est une mauvaise affaire pour celui qui l'a subi, le monsieur qu'on vient d'entendre. Mais ce qu'il y a dans ce... Comprenez, on a l'impression, en écoutant pendant une demi-heure le ministre de l'Intérieur, on a l'impression que la France est un pays où la police est raciste. Et c'est ça, moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas, parce que ce n'est pas vrai. Il y a des bavures policières. Il y en a eu, effectivement...
C'est pas systémique.
Il y en a eu,
c'est pas structurel.
Ce n'est pas systémique. Mais... On ne peut pas dire que... On peut peut-être le dire et le défendre concernant les États-Unis, et encore, on pourrait en parler, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais là, je trouve qu'on a une coloration à force de dénoncer 4 ou 5 bavures. Le ministre lui-même a mis sur la table deux de ces bavures. Mais elles, pour l'instant, elles sont à l'étude. Les dossiers n'ont pas encore été tranchés. Aussi bien pour les deux exemples qu'il a donnés. Le garçon de 14 ans, dont on a vu la tête quasiment qui ressemblait à une pastèque
ouais.
et l'autre qui a été tué sur son scooter lors d'une interpellation. Le ministre met ça sur la table. On a l'impression que ce pays n'est pas un pays où la police est raciste. Il y a dans la police quelques cas, quelques bavures qu'il faut sanctionner.
Des brebis galeuses, ça a été dit d'ailleurs.
Mais bien sûr, mais il ne faut pas donner l'impression qu'on est comme aux États-Unis. Or, c'est ça qu'il a fait un peu aujourd'hui.
Charles Villeneuve.
Non, mais c'est-à-dire que si vous voulez mettre sur le même plan ce qui est arrivé aux États-Unis, qui est un assassinat délibéré. Hein, d'ailleurs, les 2 minutes 46 de plus prouvent de toute façon le fait qu'il y avait une intention d'aller aussi loin que donner la mort. Et mettre en parallèle, si vous voulez, ce qui s'est passé, par exemple, sur Adama Traoré, ça ne résiste pas à la comparaison. La police française n'est pas construite sur le même modèle que la police américaine. Elle est recrutée, formée, commandée, répartie sous l'égide de l'État. C'est une police nationale, c'est pas une police non pas fédérale, parce qu'il y a une police fédérale aux États-Unis, c'est le FBI, mais il y a des polices de comté, des polices d'État.
Des polices municipales, puisque c'est la municipalité
qui dirige. Non, mais c'est une municipale qui fait qu'elle est élue en même temps
qu'elle
que son chef
absolument,
de la police.
Et qu'on la démantèle, comme l'a fait le maire de Minneapolis, par exemple.
En France, si vous voulez, le pouvoir central qui est placé sous la direction du pouvoir exécutif, sans être naïf ni idéaliste, la société française s'est construite sur l'égalité des citoyens, quelle que soit leur race. Ouais. Hein, et la déclaration des droits de l'homme de 1789 du 26 août, plus l'ONU qui en a fait aussi son pain quasiment quotidien et de réglage par rapport aux races en 48, etc. Donc ça, on ne peut pas... Et c'est vrai. C'est ancré dans la société française et sa culture. Et c'est en cela que je rejoins Gérard sur ce plan-là. Mais il n'empêche qu'il y a un problème qui en réalité se traduit en termes politiques et que la déclaration du ministre est en réalité une ligne politique par rapport à l'élection présidentielle du président de la République qui de toute façon veut ménager, qui a un discours
disons-le, c'est
du bon lieu.
Mais disons les choses, appelons-les par leur nom. C'est la ligne, c'est une ligne, si vous voulez, de gauche. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard si on va chercher l'ancien directeur de cabinet de Mme Taubira pour diriger la commission qui va enquêter là-dessus. Voilà. C'est une ligne de gauche qui préfigure probablement une sorte de changement de position du président de la République sur ce type de sujet
évidemment. Inflammable, et on l'a vu à l'aube de la campagne présidentielle.
Voilà. À tout de suite,
À tout de suite, messieurs, on revient dans une seconde. Charles Villeneuve, promis, Gérard Carrero.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, Charles Villeneuve et Gérard Carrero.
Oui, avec ce deuxième thème, messieurs, en quelques minutes ce soir, faut-il accélérer le déconfinement parce que la pandémie a l'air de toucher à sa fin. En tout cas, les signaux sont positifs. Attention, n'allons pas trop vite, a plaidé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Calmons nos ardeurs.
Mais de toute façon, il y a une grosse pression des parents d'élèves, évidemment, de tous les métiers du tourisme et des restaurateurs et le sport et tous les industriels, de toute façon, qui attendent avec impatience de repartir à plein. Mais c'est niet au niveau du Premier ministre. Là, le ministre de la Santé vous a dit « n'allons pas trop vite » parce que progressivement, ça s'améliore, ça circule encore un peu. Moi, ce qui m'a étonné surtout, c'est laisser-les vivre du président du Conseil scientifique, Delfrécy, qui, il n'y a pas longtemps, préconisait quand même de prolonger le confinement pour les seniors.
Donc, et qui ne voulait pas de retour à l'école des enfants.
Oui. Non, mais c'est ça qui m'étonne le plus quoi, dans cette affaire.
Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas être plus prudent que le super prudent président du comité médical. Effectivement, cet homme a été toujours... C'était le ministère de la peur. C'est le titre d'un bouquin, mais c'est le ministère de la peur. On nous a un peu fait vivre là sous le ministère, à une époque, il faut le dire, à une époque où certains nous prédisaient 200 000 morts France, etc.
Non, mais là ils craignent un rebond. Donc.
Oui. Alors, le problème, c'est qu'il peut y avoir... Mais un homme pondéré également, comme Juvin, le professeur Juvin... qu'on a pas mal entendu
l'hôpital Pompidou
pendant la
crise. À Paris,
oui.
Dans le 15e.
Il dit, lui, que ce qui reste de confinement est plus négatif que ce... Autrement dit, les inconvénients de ce qui reste de confinement et de limitation à la vie des gens, c'est plus dangereux que le...
Vous savez ce que disent un nombre de spécialistes pas négligeables aussi, c'est que le rebond, c'est de la science-fiction.
Oui, mais elle a commencé par Raoul.
Oui, ah bah oui. Bon, en tout cas, l'exécutif doit décider d'ici à mercredi hein, s'il propose de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au-delà du 10 juillet. Mais on voit bien effectivement que cela repart hein, de toute façon.
Mais déjà le 21 juin, nous aurons déjà la troisième phase.
Absolument.
Du déconfinement.
Avec l'ouverture des restaurants parisiens, non plus en terrasse, mais à l'intérieur.
Heureusement.
Entre autres. Ah, Charles, je vous reconnais bien là.
Heureusement, parce que vous vous rendez compte quand il pleut en plus. Vous êtes dans une terrasse.
C'est ça, parce que vous avez vu, la météo s'est calée sur l'ouverture des terrasses.
Non, parce que.
Juste quand même sur les scolaires, parce que c'est important peut-être, parce que vous avez vu, c'était quand même la une du Parisien, les scolaires.
Aujourd'hui. Oui, les scolaires.
Parce qu'on nous dit, et le professeur Cohen avec son étude dit, ils ne sont pas contagieux,
c'est justement pour ça qu'il faut les remettre à l'école, les braves enfants.
Il faut les remettre à l'école.
Pour que papa, maman, ils travaillent en plus.
Oui. Oui, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ceux qui restent plus ou moins confinés ont envie de se déconfiner complètement.
Les parents ou les enfants?
Oui, les parents.
C'est autre chose.
Bon, merci beaucoup les grandes voix. On vous retrouve demain tous les deux. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, lundi et le mardi, c'est avec vous, évidemment.
Avec plaisir.
Et bientôt dans les restaurants.
Nous sommes là.
Et bientôt au restaurant ensemble. Hein,
allez, je vous dirai.
Bon, allez.
J'y vais d'ailleurs.
À vous. À demain. Évidemment, les grandes voix, et c'est jusqu'à 19h.
À suivre, Nathalie Lévy.
C'est le journal de Sébastien Krebs, le 19h, évidemment, avec à la une ce soir, entre autres, ces annonces de Christophe Castaner.
Europe 1.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir avec la suite du programme, Nathalie.
Et après 19h, à noter, on se tourne vers l'actualité demain, vous le savez désormais, à 19h20 d'abord, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, alors que le Sénat examine demain, mardi, la proposition de loi pour mieux protéger les victimes de violences conjugales. Elle sera évidemment en direct avec nous. On reviendra ensemble hein, sur ce remaniement qui s'approche. Il a été dit qu'elle pouvait être tentée par un poste de Premier ministre. On va lui poser la question. Et si ce n'est pas ce poste-là, quel poste pourrait intéresser la secrétaire d'État à l'heure actuelle? Et puis à 19h30, comme chaque soir, on partage nos expériences de vie, les vôtres surtout. Ce soir, les jeunes et le marché de l'emploi, génération sacrifiée. Après ce confinement, il en a été beaucoup question la semaine dernière avec un plan, notamment. Vos témoignages, c'est au 3921 que cela se passe. Hashtag Europe 1, on vous attend nombreux au rendez-vous.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Comme vous savez, en général, quand on fait un stage, on espère secrètement poursuivre dans le même établissement. Or là, je pense que ça va être un peu difficile.
La peur de subir la crise de plein fouet. Les jeunes diplômés en première ligne craignent de devenir la génération sacrifiée.
Et le gouvernement annonce demain un plan pour le secteur aéronautique.
Christophe Castaner promet la tolérance zéro contre le racisme dans la police, alors que de nouveaux rassemblements sont prévus demain.
La police remise en cause aussi aux États-Unis. La ville de Minneapolis veut la réformer en profondeur.
Décryptage à suivre de Didier François avant les obsèques de George Floyd demain. Dans ce journal, on se projette sur la journée de demain. Demain en France, comment lutter contre les rodéos dans les quartiers.
Et puis le procès de la corruption dans le sport. L'ancien patron mondial de l'athlétisme, le Sénégalais Lamine Diack, devant les juges. Anissa, on lève la tête, le ciel.
Oui, avec encore une journée très agitée. Demain, des nuages, des orages et même de la grêle attendue en nombre. Et puis quelques régions auront la chance de voir le soleil. Je vous donne tous les détails de cette journée à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Le monde connaît sa plus vaste crise économique depuis 150 ans, alerte la Banque mondiale. La récession est planétaire. Les États-Unis rentrent officiellement en récession ce soir. L'inquiétude grandit sur les défaillances d'entreprises, y compris en France. Alors comment imaginer l'avenir lorsqu'on a la vingtaine et qu'on est tout juste diplômé? C'est toute une génération qui craint d'être sacrifiée. Mathieu Bock, vous avez recueilli des témoignages parmi ceux qui cherchent leur premier emploi.
Oui, c'est le cas de Kevin, un jeune homme de 25 ans qui termine ses études dans l'hôtellerie. Son stage dans un palace parisien a été interrompu par le confinement. Il comptait dessus pour être embauché.
Comme vous savez, en général, quand on fait un stage, on espère secrètement poursuivre dans le même établissement. Or là, je pense que ça va être un peu difficile. Donc il faut que j'attende, grosso modo, que les choses se tassent. À partir de septembre, je pense, je ferai d'autres démarches. Pour parler de manière imagée, on peut dire que le stage est l'antichambre de l'emploi. J'étais dans l'antichambre. Le stage s'est arrêté, voilà, je suis sorti de l'appartement.
Benoît Serre est le vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Pour lui, avoir terminé ses études pendant la période du confinement ne sera pas une tâche sur le CV des jeunes diplômés.
Si je me retrouve demain un jeune comme ça m'intéressera de savoir comment il a géré la période.
ça peut être une occasion de parler d'autre chose que de simples études. Donc ça peut constituer une sorte d'atout, en quelque sorte, hein, d'avoir été confronté comme ça, très jeune, brutalement, à une situation tout à fait inédite.
Et Benoît Serre rajoute qu'il entend de plus en plus d'entreprises qui prévoient d'embaucher à nouveau des alternants ou des apprentis à partir du mois de septembre.
Reportage signé Mathieu Bock pour Europe 1.
Et on y revient longuement à 19h30 avec vos témoignages, nos invités au 39-21. Soyez nombreux, hein, on prendra vos appels.
Aujourd'hui, le géant pétrolier britannique BP a annoncé 10 000 suppressions d'emplois. Dans l'aérien, la filiale autrichienne de la Lufthansa Austrian Airlines va bénéficier d'une aide de 450 millions d'euros. Et en France, après l'automobile, le gouvernement s'attaque au secteur aéronautique avec un nouveau plan de soutien qui sera présenté demain par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Emmanuel Dutheil, on peut s'attendre à un nouveau gros chèque ?
Oui, hein, on parle d'une enveloppe d'une dizaine de milliards d'euros. Dans le détail, il devrait y avoir des mesures spécifiques de chômage partiel pour le secteur aéronautique pendant de nombreux mois. Le but, ne pas licencier ou en tout cas limiter au maximum les licenciements pour ne pas perdre les compétences quand le secteur redémarrera. Un fonds d'investissement pour aider à continuer de travailler sur les technologies d'avenir et des dispositifs très spécifiques pour inciter les compagnies aériennes à ne pas annuler les commandes d'avions sont envisagés. Il faut dire que s'il y a bien un secteur qui subit de plein fouet la crise, c'est bien celui de l'aéronautique. On ne voyage plus et ça va prendre du temps, semble-t-il, pour revenir à la normale. Aujourd'hui, le marché est même à l'arrêt. Aucune commande des compagnies aériennes. Pire, de nombreuses envisagent d'étaler les livraisons ou même d'annuler certaines commandes d'avions, d'où ce plan d'aide. C'est tout un secteur qui est aujourd'hui fragilisé. Alors, on connaît les grands noms. Airbus, bien sûr, les compagnies aériennes comme Air France, mais aussi et surtout les sous-traitants. En tout, on parle d'environ 200 000 salariés et c'est surtout l'un des rares secteurs d'excellence industrielle en France.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Le nouveau bilan à jour ce soir de l'épidémie en France. 54 décès ces dernières 24 heures, ce qui porte le bilan total à 29 209 morts. Et la baisse qui se poursuit dans les services de réanimation. Il n'y a plus que 1000 cas graves en réanimation en France. Et puis, nouvelle étape du déconfinement. Les voyages vers les départements d'outre-mer seront à nouveau possibles dès le 22 juin. Sans motif impérieux, le nombre de vols va progressivement augmenter.
Et venons-en maintenant à la réponse du gouvernement. Une manifestation de ce week-end contre le racisme et les violences policières. Christophe Castaner a promis cet après-midi même la tolérance zéro dans la police et la suspension systématique des agents au moindre soupçon avéré.
Le ministre de l'Intérieur qui veut aussi une réforme des inspections et qui annonce l'abandon de la méthode dite de l'étranglement qui est utilisée pour certaines interpellations. Alors voyons ce qu'en pensent ceux qui appellent à retourner manifester encore demain et notamment le président de SOS Racisme, Dominique Sopo.
Je remarque qu'on sort d'une longue phase de déni de l'existence d'un problème. Ceci étant, à partir du moment où la police juge la police, il n'y a pas de capacité aujourd'hui avérée de la police de s'autoréguler. Tout service public doit avoir du regard extérieur. Et cette façon de vouloir empêcher le regard extérieur dans ce qui se passe au sein de la police nationale ne me semble pas être de facture démocratique. Alors, il y a une évolution qui a été exprimée par Christophe Castaner sur la nécessité de faire évoluer ces corps d'inspection, éventuellement, parce que tout ça est très flou, de les ouvrir, mais on voit bien que M. Castaner avance manifestement à reculons et essaye à minima de répondre à des choses pour calmer des manifestations, des exigences vis-à-vis de la police qui sont des exigences légitimes.
Dominique Sopo avec Yasmina Katou pour Europe 1.
Et un appel à manifester demain au moment où George Floyd sera inhumé à Houston. On va y revenir avec Didier François dans quelques instants. La ville de Minneapolis veut réformer en profondeur d'ailleurs sa police.
D'abord un procès très symbolique, celui de l'ancien patron de l'athlétisme mondial, le Sénégalais Lamine Diack, 87 ans. Il a comparu aujourd'hui devant le tribunal de Paris pour corruption. Il est accusé d'avoir protégé des athlètes russes dopés. Corinne Boulou, vous avez assisté à l'audience.
Oui, c'est accompagné d'une nuée de caméras que l'ancien patron de l'athlétisme mondial s'est frayé ce matin un passage jusqu'à la salle d'audience. 4 ans et demi que Lamine Diack patiente depuis sa mise en examen. Placé sous contrôle judiciaire, le Sénégalais de tout juste 87 ans est soupçonné avec l'un de ses fils en fuite à Dakar d'être au cœur d'un pacte de corruption sur fond de dopage en Russie. À pas lents, Lamine Diack s'est avancé ce matin à la barre du tribunal pour préciser que son état de santé était compliqué mais qu'il était là. L'un de ses avocats le dit serein, déterminé et tranquille. Il sera entendu une première fois mercredi. En attendant, L'après-midi a été consacré à près de 4 heures d'audition de l'ancien responsable de la lutte antidopage à la Fédération internationale d'athlétisme, Gabriel Dolé. Entre oubli et étonnement, il a quand même reconnu avoir accepté de faire une concession sur sa mission dans l'intérêt supérieur de sa fédération, a-t-il dit, en retardant contre rémunération l'analyse de plusieurs cas suspects russes, lesquels athlètes ont pu ensuite se présenter aux Jeux Olympiques de 2012, action qu'il regrette aujourd'hui. Dans cette affaire, l'IAF réclame environ 25 millions d'euros de dommages et intérêts aux prévenus.
Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre édition de 19h, on se projette vers demain en France. Comment lutter contre les rodéos dans les quartiers?
Et demain dans le monde, les méthodes de la police américaine réformées après la mort de George Floyd.
Europe 1.
19h09 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et c'est l'heure de demain en France avec vous Jean-Pierre Montanet. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Sébastien.
Alors bruyant, hein, pour le moins, exaspérant aussi, et voire mortel, les rodéos dans les cités, au point que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a mandaté 2 députés pour trouver des solutions rapides.
5673, hein, c'est le chiffre du soir, le nombre d'interventions des forces de l'ordre pour des rodéos lors des 4 premiers mois de l'année. Près de 50 par jour, hein, hausse de 16% par rapport à 2019. Comment éradiquer cette plaie qui traumatise les quartiers? Deux députés de La République En Marche, Catherine Hausson du Nord et Natalia Pouzirev des Yvelines, expertes en quad et T-Max, hein, à l'origine déjà de la loi de 2018 qui a introduit le caractère délictueux du rodéo. Elles sont donc chargées d'ici la fin de l'année de remettre des propositions au gouvernement pour faire cesser ces courses pétaradantes et sauvages qui ont causé ces dernières semaines la mort de 2 conducteurs en banlieue parisienne et blessé 2 fillettes à Strasbourg.
Alors quelles sont, Jean-Pierre, leurs pistes de travail?
Eh bien, Natalia Pouzirev, que j'ai eu au téléphone, m'a indiqué qu'elle planche sur 3 axes. 1. Associer les acteurs de terrain, police municipale pour sanctionner, éducateurs pour identifier les passages à l'acte chez les jeunes et faire de la prévention, et bailleurs de fonds pour traquer les motos planquées dans les caves d'immeubles. 2. Mettre le paquet sur le renseignement, meilleure surveillance des réseaux sociaux, où sont souvent organisés les rassemblements, exploitation accrue des caméras vidéo, et pourquoi pas obtenir l'autorisation de poursuivre avec des drones ces motocross, hein, pratique jusque-là interdite par l'État. Enfin, 3. Renforcer la riposte judiciaire. Les 2 députés militent pour des comparutions immédiates et la confiscation des motos de façon systématique. Elles préconisent des peines renforcées pour les caïds à la tête des trafics d'engins volés et des travaux d'intérêt général pour les mineurs auprès des grands accidentés de la route.
Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet. À demain. À croire que le confinement n'avait pas non plus lui stoppé les rodéos à
pas
moto.
Du tout, hein. Au ouais. Contraire.
Demain dans le monde, à présent, bonsoir Didier François.
Bonsoir.
On était sur place à 18h, Houston qui se recueille devant le cercueil de George Floyd. Demain, ce seront les funérailles de cet Afro-Américain dont la mort par asphyxie sous le genou d'un policier à Minneapolis a provoqué un vaste débat aux États-Unis sur les pratiques de la police.
Oui, avec une proposition de loi déposée aujourd'hui au Congrès par des élus démocrates qui appellent à une réforme en profondeur des services de police à l'échelle nationale. Et puis ce vote du conseil municipal de Minneapolis, la ville où George Floyd a été tué. Écoutez.
Nous nous sommes engagés à démanteler les services de police de Minneapolis dans leur forme actuelle pour reconstruire un nouveau modèle de sécurité publique qui protège vraiment la population.
Voilà, donc alors évidemment, hors de question de licencier du jour au lendemain l'ensemble des officiers du police department et de laisser le champ libre aux malfrats, mais cette annonce symboliquement très forte montre l'ampleur du chantier engagé, avec d'abord une remise en cause des méthodes d'interpellation les plus dangereuses, comme le plaquage ventral, mais surtout avec une volonté d'abroger un point essentiel de la loi, qui est la notion d'immunité qualifiée. Une protection juridique qui limite très strictement les poursuites contre un policier pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions et qui s'est finalement transformé en sorte d'impunité.
On parle aussi, Didier, de militarisation de la police américaine. Hein.
Effectivement, un policier américain sur 5 a servi en Afghanistan ou en Irak, dans le cadre de la réserve. Or, lors de ces interventions extérieures, l'armée américaine applique le principe de force protection qui autorise un usage disproportionné de la force pour protéger la vie des soldats, et cela malgré le risque des dommages collatéraux. Et on retrouve ce type de comportement de la part des policiers qui n'hésiteront pas à ouvrir le feu en pleine rue aux États-Unis s'ils se sentent menacés. Alors, c'est certes un pays où il y a chaque année 4 fois plus de meurtres et 6 fois plus de policiers tués qu'en France. Reste que proportionnellement, la police américaine tue 10 fois plus de suspects que la police française.
Voilà, merci.
Chiffre Implacable.
Didier François, merci beaucoup. Et le policier, Derek Chauvin, le policier américain qui est désormais poursuivi pour meurtre après la mort de George Floyd, doit comparaître, lui, pour la première fois devant un juge dans les toutes prochaines heures, là, ce soir.
Un peu de... Merci Didier, merci Sébastien. Un
Bonsoir.
Peu de musique.
Je chante un peu de musique. Baiser.
Ah oui, j'adore.
Je chante un baiser osé sur mes lèvres déposées.
Vous avez reconnu Souchon?
Bah oui.
Il sera sur la scène des Francofolies de La Rochelle. Alors pas cette année, hein, ça on l'a compris, festival annulé. Mais l'année prochaine, programmation déjà annoncée
déjà
pour l'été 2021. Il y aura aussi Jean-Louis Aubert, Marc Lavoine, Louis Chédid ou encore Matt Pokora. Programmation déjà annoncée plus d'un an avant, histoire de vous convaincre, si vous aviez des billets pour cette année, de les garder pour l'année prochaine, de les conserver et de ne pas demander le remboursement, ce qui aide évidemment l'organisation du festival.
Donc ils seront valables, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Évidemment, belle programmation. Merci beaucoup Sébastien.
À tout à l'heure,
19h30. Anissa, du côté du temps, encore des nuages.
Oui, des nuages effectivement demain, Nathalie, de la Lorraine à l'Alsace et jusqu'à la Côte d'Azur. Tout le long de la frontière de l'Est, les averses sont très fréquentes demain, avec même dans l'après-midi des orages qui éclatent et de la grêle sur les Alpes du Sud. Attention, on attend des cumuls très importants, notamment sur les Alpes du Sud. Donc, grande prudence dans ce secteur et on pense bien sûr aux cultures qui risquent d'être abîmées avec cette grêle qui pourrait être violente. Alors du sud-ouest jusqu'à la Bourgogne, en passant par le Limousin, la région lyonnaise, le Massif central, après une matinée grise et humide, et bien là aussi, demain après-midi dans ces régions, les orages éclatent avec une activité électrique assez importante. Partout ailleurs, sur le quart nord-ouest et le nord, sur la région parisienne, la Bretagne, les Pays de la Loire, le centre et le Poitou-Charentes, et bien le temps est sec demain, avec même de belles éclaircies, notamment en Bretagne. Et au bord de la Méditerranée aussi, le soleil sera présent, mais il sera accompagné du Mistral et de la Tramontagne qui vont souffler jusqu'à 80 km/h. Les températures, elles sont encore fraîches demain matin, avec seulement 5 degrés à Aurillac, 8 à Châteauroux, 9 à Saint-Étienne et Belfort, 13 à Biarritz. Et puis dans l'après-midi, c'est stationnaire, 15 à 20 sur l'ensemble du pays, 18 à 22 sur la façade atlantique et jusqu'à 26 au bord de la Méditerranée.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, et avec l'interview de demain dans un instant.
Oui, parce que mardi arrive au Sénat l'examen de la proposition de loi pour mieux protéger les victimes de violences conjugales. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, est en direct sur Europe 1. Elle répond à mes questions dans moins de deux minutes.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et on se tourne vers demain. Demain, les violences conjugales arrivent en discussion au Sénat. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, est votre invitée ce soir.
Bonsoir Marlène Schiappa.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être à mon micro sur Europe 1. Alors effectivement, demain, ce rendez-vous avec cette loi déjà approuvée par le Parlement. Septième texte quand même sur cette question sensible en 20 ans, sans pour autant que le nombre de victimes ne baisse. Qu'est-ce que ce texte de loi a de plus que les autres ?
Vous avez raison de le rappeler, mais je crois que le changement, c'est qu'il y a une vraie mobilisation de la société. Depuis le Grenelle des violences conjugales, qui a été organisé par le Premier ministre Édouard Philippe à Matignon, on voit que l'ensemble de la société se mobilise enfin contre les féminicides, qui sont un phénomène qui existe depuis l'Antiquité, nous disent les anthropologues. Donc là, enfin, l'ensemble de la société se mobilise et lutte contre les féminicides en arrêtant de considérer que ce serait une fatalité.
Mais vous parlez aussi du Grenelle, et pourtant, Marlène Schiappa, en dépit de ce Grenelle, le nombre de victimes reste désespérément stable. Une femme, tous les trois jours, est tuée par son compagnon. Alors, quelles sont les mesures les plus importantes portées par ce texte ?
En fait, ce qu'on observe, c'est que depuis le début 2020, il y aurait au contraire, et je mets beaucoup de précautions et je parle au conditionnel, mais il y aurait une baisse des féminicides. On serait passé de un féminicide tous les deux jours et demi environ sur l'année précédente à, depuis le début de l'année, en moyenne, environ un féminicide tous les quatre jours. C'est un petit mieux, mais bien sûr, on ne peut pas s'en réjouir parce que c'est encore beaucoup trop. Dans ce texte, il y a par exemple la saisie des armes. On dit souvent qu'elle est morte sous les coups de son conjoint, mais en fait, le premier mode opératoire, c'est l'arme à feu. Et maintenant, une fois que ce texte sera voté, dès la plainte, les policiers et les gendarmes pourront saisir les armes à feu et ainsi mieux protéger les femmes.
Donc c'est une approche quoi ? Est-ce qu'il y a par ailleurs, outre ça, une approche plus préventive ? Parce que c'est aussi ce qui manque, Marlène Schiappa, largement.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et oui, l'idée, c'est qu'on change de paradigme et qu'on prenne en charge notamment les auteurs de violences conjugales. Quand on a lancé le Grenelle des violences conjugales, plusieurs experts nous ont dit, en fait, l'État, depuis des années, ne s'occupe pas des auteurs de violences conjugales et ne fait pas baisser la récidive. Donc nous, on a décidé de lancer un appel à projet pour ouvrir 2 centres de prise en charge des conjoints violents par région d'ici la fin du quinquennat. Il y en a déjà à Arras.
Mais ça, c'était déjà dans le Grenelle, Marlène Schiappa?
Alors, c'est dans le Grenelle des violences conjugales. Et pendant le confinement, on a ouvert une ligne téléphonique, je me permets de la partager. C'est le 08 019 019 11 à destination des auteurs de violences conjugales. Il y a des hommes qui prennent du plaisir à être violents, à dominer leur compagne, mais il y a des hommes qui sont aussi mal à l'aise avec ça, qui ne veulent pas devenir violents. Ils peuvent téléphoner, être accompagnés par un psychologue. Et je vous l'annonce, il y a eu plus de 500 appels d'hommes depuis l'ouverture, il y a un mois et demi, de cette ligne téléphonique pour se faire accompagner.
Marlène Schiappa, en mai 2020, le député La République En Marche, Stéphane Trompy, a été condamné pour harcèlement sexuel au prud'homme, sans pour autant avoir été exclu du parti. Comprenez-vous cette décision et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ce soir?
Mais moi, ce que je considère, c'est qu'une personne qui s'est rendue coupable de harcèlement sexuel ou de toute violence sexiste et sexuelle que ce soit, n'a pas sa place à La République En Marche. Je le dis très clairement. Donc maintenant, il y a un travail de la justice. Je crois que c'est en septembre que la décision de justice, me semble-t-il, je ne connais pas le dossier, sera rendue. Et bien évidemment, lui, comme toute personne, qu'il soit député ou qu'il soit un militant de base, si je peux utiliser cette expression, qui serait condamné pour des violences sexuelles, n'a pas sa place dans un parti qui lutte contre les violences sexistes. Alors, et sexuelles, pour lequel l'égalité femmes-hommes est la grande cause du quinquennat.
Marlène Schiappa, la grande cause du quinquennat, et ce remaniement qui s'approche, enfin en tout cas dont on parle beaucoup, il s'approche ce remaniement, Marlène Schiappa, il va exister?
Alors, je ne suis pas président de la République ni premier, je ne compose pas le gouvernement, donc je suis dans l'incapacité de vous dire s'il y a un remaniement qui s'approche et quand.
Bon, on vous a proposé, enfin en tout cas, on vous a posé déjà la question de poste de Premier ministre de Matignon. Vous avez balayé, entre guillemets, d'un revers de la main. Blâmez-vous un manque pour autant dans les responsabilités qui vous ont été octroyées par le gouvernement?
Non, je sais pas, c'est pas du tout mon état d'esprit. Moi, je considère que j'ai beaucoup de chance, très honnêtement, de pouvoir servir mon pays. Moi, vous savez, je suis une fille qui a grandi dans les cités HLM. J'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po. Mon engagement, c'est un engagement militant pour les femmes, pour le pays. Et je suis très honorée de pouvoir faire avancer la cause.
Mais vous en voulez plus, Marlène Schiappa? Ce plus, il se définirait comment? Avec un autre poste que Premier ministre, par exemple, un ministère élargi, comment?
On a déjà un Premier ministre, ça ne vous aura pas échappé. Mais oui, moi, je souhaite faire plus pour les femmes. Et donc, je souhaite, si le Président de la République et le Premier ministre me font toujours confiance, je souhaite porter encore plus haut la cause de l'égalité femmes-hommes. Et oui, travailler sur d'autres sujets qui sont connexes. La question des congés familiaux que j'ai souhaité mettre sur la table, par exemple, elle touche de près la question de l'égalité femmes-hommes. Vous savez que pendant le confinement, dans 63% des familles, ce sont les femmes.
Bien sûr, on va y venir. On va y venir, Marlène Schiappa. Juste une dernière question sur le remaniement à venir. Peut-être, si le poste de Premier ministre devait être à saisir, pensez-vous qu'il faille y placer une femme? Parce que c'est votre combat, et quelle femme?
Alors, encore une fois, le choix du Premier ministre dans la Ve République, c'est la prérogative exclusive du président de la République. Et donc, je ne vais pas évidemment me lancer dans des jeux de qui est-ce ou des spéculations. J'observe qu'il y a à l'heure actuelle un Premier ministre qui est très populaire et qui s'appelle Édouard Philippe.
Donc, pas de femme à ce poste aujourd'hui, ce n'est pas une urgence absolue pour vous?
Pour moi, l'urgence absolue, c'est qu'on fasse progresser la question de l'égalité femmes-hommes. Le fait d'être une femme, ce n'est pas forcément une garantie qu'on aidera les autres femmes. L'histoire est pleine de ces exemples-là. Mais je crois qu'il faut quand même faire monter davantage de femmes aux responsabilités politiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé un programme de mentorat qui s'appelle Toute politique, pour faire en sorte qu'on voit plus de femmes dans le débat public et que davantage de femmes dans l'avenir puissent effectivement être première ministre, présidente de la République et accéder à d'autres fonctions éminentes de pouvoir.
Marlène Schiappa, vous avez évoqué effectivement cette volonté d'en faire plus pour les femmes et les familles. Vous avez proposé ces jours-ci, entre autres, la création d'un congé pour ceux qui ont un parent malade. Je ne comprends pas la différence avec le plan aidant élaboré par Agnès Buzyn et par Sophie Cluzel, qui prévoit pour les salariés le congé proche aidant.
Ce sont deux choses totalement différentes. Effectivement, le gouvernement a travaillé sur un congé proche aidant, qui est une très bonne mesure et qui permet de s'arrêter de travailler pendant une durée de 3 mois, renouvelable jusqu'à 1 an maximum, pour prendre soin d'une personne dépendante, un enfant handicapé, etc.
Mais ça peut être tronçonné, ce congé de 3 mois.
Exactement, ouais. Vous avez tout à fait raison, et ça, ça doit être mis en œuvre d'ici la fin de l'année 2020. Moi, ce que je propose, c'est de remettre la question des congés familiaux sur la table, et notamment en la matière de créer un congé parent malade sur le modèle du congé enfant malade. Parfois, votre parent n'est pas une personne âgée dépendante, mais vous avez un parent qui, par exemple, se casse une jambe, tombe, a besoin d'être accompagné, et vous avez besoin de 3 jours, 5 jours, pour l'accompagner dans ses soins. Donc, il ne s'agit pas d'aider une personne dépendante pendant 3 mois, il s'agit véritablement de pouvoir prendre 3 jours, comme on fait pour les enfants malades. Mais par ailleurs, je propose aussi un congé pour les jeunes grands-parents. Vous savez, en moyenne en France, une femme, elle devient grand-mère à l'âge de 54 ans. Ça veut dire que très souvent, encore dans la vie active. Et je crois qu'un congé de jeunes grands-parents qui pourrait permettre d'accompagner les jeunes grands-parents qui viennent aider leurs enfants au moment d'une naissance, ça pourrait être positif. Les congés familiaux, ils sont très centrés au moment où on devient parent. Les responsabilités familiales, c'est tout au long de la vie.
Un mot encore, Marlène Schiappa, parce que les municipales, c'est le 28 juin, autant dire demain, vous êtes sur la liste des municipales du 14e arrondissement et vous avez affiché un certain manque de soutien à l'égard d'Agnès Buzyn en écrivant « Plus personne ne pense qu'Agnès Buzyn va être élue maire de Paris ». Elle est la seule responsable de cette déroute, Agnès Buzyn, Marlène Schiappa ?
Non, d'abord, c'est pas du tout le sens de ce que j'ai écrit. Ce sont, en tout cas, je n'ai absolument rien affiché. Ce sont des propos privés qui ont été déformés et auxquels on a donné un sens totalement contraire de celui que ces propos avaient, qui était le simple fait de débattre sur une stratégie politique dans les quartiers qui n'ont pas voté pour nous. Et je disais simplement qu'on ne fait pas la même campagne quand on est arrivé en tête et quand on est arrivé troisième. Je crois que l'esprit de conquête n'empêche pas la lucidité et la lucidité n'empêche pas l'esprit de conquête. Donc nous avons avec l'ensemble de nos partenaires à Paris une partie des gens qui viennent du Modem, une partie des radicaux, une partie qui ont quitté la droite ou la gauche, avec La République En Marche dans les listes qui sont conduites par Agnès Buzyn, nous avons construit un vrai projet pour Paris et donc maintenant il faut que nous puissions le présenter aux Parisiennes et aux Parisiens et qu'on parle peut-être un peu moins des gens et un peu plus du projet.
Merci beaucoup Marlène Schiappa d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1. Merci à vous.
Europe 1.
À suivre Nathalie Lévy. Restez avec nous dans quelques minutes, 3 exactement. On partage nos expériences de vie, on s'intéresse ce soir aux jeunes, les sacrifiés de cette pandémie. Difficulté à trouver un stage ou un premier job, on en parle avec nos experts. Et avec vous au 3921, hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Et votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Christophe Castaner promet la tolérance zéro contre le racisme dans la police et la suspension systématique des agents au moindre soupçon avéré. Le ministre de l'Intérieur veut aussi une réforme des inspections et l'abandon des méthodes d'étranglement pour les interpellations. 54 décès en 24 heures à l'hôpital, la décrue continue aussi dans les services de réanimation où il reste 1 000 000 de patients. Pour autant, la situation continue de s'aggraver dans le monde, estime l'OMS, notamment en Amérique latine. À retenir aussi ce soir, les voyages vers l'outre-mer à nouveau autorisés sans restriction à partir du 22 juin, mais pas vers le Royaume-Uni qui impose désormais une 14aine à toute personne entrant sur son territoire, même si elle y réside. Les États-Unis se déclarent officiellement en récession pour le mois de février, et cela après 128 mois, c'est-à-dire plus de 10 ans de croissance. Des députés démocrates s'agenouillent au Congrès de Washington. Image de ces dernières heures, pendant 8 minutes et 46 secondes, la durée de l'agonie de George Floyd à la veille de ses funérailles.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. L'info revient demain dès 18h avec vous dans ce studio. Anissa, du côté du temps, les orages, attention.
Soyez très prudents demain, effectivement, surtout dans le sud-est et notamment du côté des Alpes du Sud où on attend une activité orageuse assez importante dans l'après-midi avec des chutes de grêle et un cumul important. Mais il n'y a pas que là qu'il y aura des orages demain après-midi. Également sur le Massif central, le Limousin, la Bourgogne, l'Alsace, les orages seront très nombreux. Le soleil sera présent dans le nord-ouest et dans le sud-est au bord de la Méditerranée, accompagné quand même du Mistral et de la Tramontane. Les températures, elles sont toujours fraîche pour la saison avec 7 à 12 degrés demain matin et 14 à 26 degrés, 14 au Puy-en-Velay, 20 à Paris et 26 à Bastia.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et vos invités, Nathalie. On parle ce soir de l'avenir difficile pour les jeunes, premiers touchés par cette pandémie, la galère pour eux pour accéder à un stage ou à un premier emploi. Vous pouvez bien sûr partager vos expériences avec nous au 3921. N'hésitez pas également à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Oui, on en parle avec nos invités que j'accueille dans ce studio. Bonsoir Bernard Vivier.
Bonsoir.
Bienvenue, président de l'Institut supérieur du travail. Mathieu Plane est également avec nous. Bonsoir à vous, bienvenue.
Bonsoir.
Mathieu Plaine, vous êtes économiste et directeur adjoint à l'OFCE. On va d'abord planter le décor avec vous et puis les auditeurs vont nous raconter bien sûr leur parcours. On le sait, le monde connaît sa plus vaste crise économique depuis 150 ans. La Banque mondiale a alerté et les jeunes craignent des arrêts de stage en nombre, bien sûr, pendant cette crise. Ces jeunes touchés de plein fouet par ce Covid. Coup dur pour la génération Covid. Comment imaginer l'avenir, Bernard Vivier, quand on voit comme ça que bah, y a plus de stagiaires, il n'y a plus d'embauches?
Eh bien, ce que nous vivons en ce moment touche tout particulièrement les jeunes.
C'est ça.
D'abord parce que les jeunes, en termes de chômage, sont beaucoup plus affectés que les autres classes d'âge. Hein, il y a pratiquement deux fois plus de chômeurs sur les 18-25 ans que sur les autres catégories. Et puis parce qu'en ce moment, les mesures de confinement ont frappé de plein fouet les jeunes. Les emplois des jeunes sont dans des secteurs qui sont particulièrement touchés par les mesures du confinement. Le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les services, l'hébergement. Donc nous avons aujourd'hui une catégorie de jeunes très en difficulté. Et attention, nous n'avons pas encore vu le plus lourd de ce que nous allons voir. C'est-à-dire qu'en septembre, l'arrivée massive de quelques 700 000 jeunes sur le marché du travail va se faire dans des conditions très difficiles. Parmi eux, nous l'oublions pas, ce qu'on appelle les décrocheurs. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de diplôme et de capacité à s'insérer rapidement sur le marché du travail.
Alors, on a parlé avec vous, Bernard Vivier, effectivement, du risque des décrocheurs et puis de ces métiers dans le tourisme et dans tous ces secteurs. Mais même qualifié, Mathieu Plaine, il y a de quoi craindre la précarité?
Oui, il y a de quoi craindre de la précarité. Alors, c'est lié aussi à la façon dont on rentre les jeunes sur le marché du travail. Hein. On voit bien que les jeunes, hein, pour beaucoup, dans leur premier contrat, sur des contrats courts ou de l'intérim, alors un peu moins chez les plus qualifiés, mais même chez les qualifiés, on en a. Et c'est là, hein, où il faut quand même mettre l'accent, c'est que cette crise, comme vous avez dit, elle est inédite. Elle a des répercussions vraiment explosives, hein, sur le marché du travail. Et là, on est dans le premier tour de la crise. Et le premier tour de la crise, ça veut dire que les ajustements qui sont faits par les entreprises, c'est sur les contrats courts. C'est-à-dire, vous ne reconduisez pas un contrat d'un mois, deux mois, vous ne reprenez pas l'intérimaire que vous aviez.
Et puis le plus jeune arrivé, le dernier arrivé, voilà, plus facile à faire sauter.
Et enfin, donc, il faut savoir que les jeunes sont surreprésentés dans ces catégories d'emplois. Donc, ce qu'on appelle les emplois temporaires, et on peut appeler aussi emplois précaires. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que donc, les entreprises, bah, la première variable d'ajustement qu'elles vont utiliser, c'est ce type d'emploi, elles ne vont pas les reconduire. Mmh. Or, nous, on a fait une évaluation à l'OFCE, où on a calculé 620 000 emplois détruits pour les 8 semaines de confinement. Donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 300 000 sur l'ensemble de l'année 2009, qui est la pire année d'après, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on est quasiment sur deux fois plus en l'espace de 8 semaines. Et donc, surreprésenté par ces contrats courts. Hein. Ce n'est pas des plans de licenciement, c'est des contrats courts
qui sont plus faciles, donc, évidemment, à faire.
Les jeunes, pratiquement un jeune sur deux est dans ce type de contrat. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment, massivement, des jeunes qui se retrouvent au chômage. Alors, j'en termine juste là-dessus, c'est avec quand même quelque chose qui est très important. C'est qu'eux, on peut avoir accès à l'assurance chômage, mais pour des durées assez courtes, ce qui ne cotise pas tellement. Et donc, ça peut être assez court sur leur indemnisation. Et pour certains, ils n'ont même pas accès. Or, il faut savoir que les jeunes de moins de 25 ans n'ont pas accès au RSA.
Bien sûr.
Et donc, ça veut dire que certains se trouvent sans rien. D'où la pauvreté, la précarité qui se développe. Donc il faut vraiment un plan jeune,
qui soit ambitieux,
sur l'emploi et sur l'aide, même à court terme, l'aide financière.
Alors je vais vous donner la parole, évidemment, Bernard Vivier. Vous allez réagir à un premier témoignage. Daphné qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Daphné, vous avez 24 ans. Talia, bonsoir.
Oui,
bienvenue,
bonsoir.
Vous avez 22 ans, 2 ans de moins. Vous, votre stage, typiquement, a été annulé. Hein.
Oui, c'est ça.
Racontez-nous.
Enfin, je devais être en stage dans un institut médico-éducatif. Je devais animer des cours de sport dans ce centre et on n'a pas pu continuer le stage à cause du Covid qui rentrait en vigueur, quoi.
Bien sûr. Alors, évidemment, les stages aussi, c'est le cas pour ces jeunes qui ont dû cesser en cours de route. Quand c'est comme ça, les entreprises, elles reconduisent, les écoles fournissent des attestations qui vont durer, Bernard Vivier ? Parce que les stages, c'est aussi ce qui fait qu'ensuite, ces jeunes peuvent être formés.
Oui, bien sûr. Et puis, n'oublions pas, il y a les stages dont Talia parle. Et puis, toute la vague très importante de l'apprentissage.
Bien sûr.
Où il y a une alternance entre des séquences en entreprise et des séquences à l'école.
À l'école, oui.
Hein, donc, ou même aujourd'hui à l'université. Et jeudi dernier, le président de la République a réuni patronat, syndicats, le ministre du Travail va réunir à nouveau ses partenaires sociaux, ainsi que des personnalités qualifiées, pour développer, mettre le paquet, si on peut parler familièrement, 1 milliard d'euros sur l'apprentissage, parce que c'est une formule qui marche très bien ailleurs en Europe, qui commençait à se redresser dans notre pays et qui aujourd'hui s'affaisse du fait de ce que l'on vit en ce moment.
Alors, on va revenir évidemment sur ce qui peut être annoncé dans les prochains jours, parce que c'était jeudi dernier la réunion, hein, il n'en est pas encore sorti grand-chose. On va voir évidemment avec les témoins et puis avec vous deux comment on peut sortir de ça, comment les jeunes peuvent se sortir de cette période extrêmement critique. C'est avec Mathieu Plane, Bernard Vivier, nos invités. À tout de suite.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et on parle de vous les jeunes et des conséquences de cette pandémie. La galère pour accéder à un stage ou un premier emploi, vous pouvez témoigner, on vous écoute au 39-21.
Oui, on va prendre évidemment nombre de témoins. Je voudrais juste vous poser une question à tous les deux, Mathieu Plane, Bernard Vivier, parce que vous nous accompagnez ce soir. Est-ce que le Covid peut coûter sa passion à des jeunes dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui? C'est-à-dire être parti dans un corps de métier, dans une envie, par exemple l'artistique, et puis être obligé d'être dans la reconversion absolue, parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
Ouais,
Bernard et Mathieu, alors, comme vous voulez.
Rapidement. Non. Là, on est dans des situations qui peuvent être, entre guillemets, très galères pour un certain nombre de jeunes. On voit bien, les perspectives sont quand même très incertaines pour beaucoup de secteurs. On voit même si les choses sont en train de s'améliorer, pour tout ce qui est interaction sociale fort, et donc on parle des spectacles, des événementiels, tout ce qui est lié au tourisme, la restauration.
Les jeunes intermittents,
donc voilà, et on a beaucoup de jeunes là-dedans, donc c'est vrai que on voit bien que le redémarrage se fera peut-être à un moment donné, mais il sera quand même très lent, et donc vous avez des générations qui ont été formées pour ça, qui vont avoir des difficultés, et donc il va falloir joindre un peu les deux bouts, donc c'est possiblement aller s'orienter, alors temporairement ou plus durablement, sur d'autres types de métiers qui seront plus attractifs, en tout cas qui vont plus embaucher, mais ça restera tout ça très très précaire. Et comme ça a été dit, il y a toute la saison aussi, tous les contrats saisonniers qui arrivent, donc c'est comment ça se passer, on a beaucoup de jeunes, et puis les 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché
évidemment.
Du travail. Donc...
Mais quand même, Bernard Vivier, la France n'est pas une exception, selon l'OMS, l'Organisation Internationale du Travail, pardonnez-moi, l'OIT, un jeune européen sur 6 a perdu son emploi depuis le début de l'épidémie, et ceux qui l'ont conservé baissaient d'environ 23% leur temps de travail.
Oui, mais la France a une particularité. Alors, disons-le, entrer sur le marché du travail aujourd'hui, quand on est jeune, c'est galère. Mais le travail n'est pas une galère. Le travail, il est aussi la réalisation d'une passion, d'un métier que l'on vient d'apprendre. Et nous voyons bien les deux axes sur lesquels il nous faut travailler. Faire en sorte que, d'abord, le travail des jeunes soit plus riche de sens, plus émancipateur. Il y a eu un rapport l'an dernier au Conseil économique, social et environnemental, Castéra-Gouguin, qui a fait un bon rapport, qui intègre cette notion-là. Et puis, il faut tenir compte aussi de la caractéristique française qui fait que notre système éducatif, notre formation initiale, prépare encore trop mal à la formation. N'oublions pas qu'aujourd'hui, un jeune sur cinq est toujours en recherche d'emploi après sa sortie du système éducatif. Et que chaque année, on enregistre 140 000 décrocheurs, c'est-à-dire sans diplôme. Donc là, le travail, il est à faire. Ça veut dire rapprocher davantage l'entreprise et le monde de l'éducation, c'est le sens de l'apprentissage, et puis aussi décentraliser, déconcentrer, faire en sorte que ce ne soit pas le grand tout de l'appareil d'État qui ordonne la formation.
Bien sûr. Alors, on va prendre un témoin. Jean Duquesne, bonsoir à vous. Vous avez 24 ans. Vous êtes-vous, a priori, préadmis dans une école d'ébénisterie? La Bonne Graine, c'est dans le 11e à Paris. Donc, tout s'annonce de manière positive ou pas?
En fait, je suis admis sous réserve de trouver une entreprise d'apprentissage. Et pour le moment, vu la conjoncture actuelle, c'est très dur de trouver une entreprise.
D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sinon, ils peuvent se rétracter?
Tant que j'ai pas d'entreprise, je suis pas admis à l'école.
Et vous avez contacté combien d'entreprises?
J'en ai contacté un peu plus de 70 actuellement, qui sont basées entre Lille et Paris. Donc j'ai élargi le secteur pour maximiser mes chances, mais j'ai toujours pas eu de réponse positive.
Et vous devez avoir une réponse sous combien de temps?
En fait, par rapport à l'école, j'ai jusqu'au mois de novembre, il me semble, pour trouver un apprentissage. Donc j'ai encore le temps, mais ça se raccourcit de plus en plus.
Et vous avez une solution de repli?
Oui, j'ai une solution de repli. Je peux envisager de faire une formation continue, une formation à temps plein en centre d'apprentissage. Et dans ce cas-là, je serai moins en contact de l'entreprise, en fait.
Bien sûr. Merci beaucoup. On vous souhaite bon courage, évidemment, Jean, et puis à tous ceux qui nous appellent ce soir. C'est ça, l'apprentissage pour parler la crise. On y revient, Mathieu Plane.
Oui, donc l'apprentissage, on voit qu'il y a un plan apprentissage là, qui est en train de se mettre en route, justement pour éviter qu'on se retrouve avec énormément de jeunes qui souhaitent rentrer en apprentissage, qui ne soient pas pris par les entreprises. Donc, ça
avec
veut
une
dire...
prime, pardonnez-moi, de 5 à 8 000 euros.
Hein,
pour,
on augmente
pour,
la prime voilà, et on diminue le coût pour l'entreprise, du coup à inciter. Le problème, c'est que même avec cette prime, on n'est pas garanti que les entreprises prendront ces jeunes. Si vraiment on est dans une situation très difficile financière, et puis surtout même... on voit sur le maintien même de l'emploi existant. Donc, c'est des secteurs qui sont extrêmement touchés. On le voit, là, on parle des artisans, les indépendants, qui sont quand même en première ligne aussi de la crise économique, qui ont aujourd'hui, malheureusement, d'autres choses presque à penser que de savoir s'ils vont prendre un apprenti ou pas. Donc, c'est très triste, bien sûr, cette situation. Donc, il va falloir trouver vite des solutions pour éviter qu'on ait quelque chose en cascade, parce qu'on risque de se trouver face à des générations sacrifiées.
Mais c'est ce qu'a dit la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, les jeunes ne sont pas variables d'ajustement de la crise, on ne peut pas avoir une génération sacrifiée. Mais c'est bien l'apprentissage, Bernard Vivier, mais ce n'est pas possible pour tous les secteurs. Clairement pas.
Pas vraiment. Nous avons toujours l'image que l'apprentissage, ce sont des métiers manuels.
Et c'est, très bien
et c'est vrai que l'apprentissage a beaucoup formé d'excellents opérateurs, d'excellents ouvriers, d'excellents artisans. Et l'auditeur qu'on avait tout de suite
dans
en ligne, et il est dans une école du 11e arrondissement à Paris, c'est-à-dire le lieu historique de la formation des menuisiers ébénistes. C'est le Faubourg Saint-Antoine, c'est un morceau de l'histoire de France et l'histoire sociale. Bien, aujourd'hui, cet apprentissage, il s'étend à quantité d'autres secteurs, des métiers dits intellectuels. Nous sommes en train progressivement, mais réellement, de casser l'idée que l'apprentissage, ce sont les métiers manuels.
Exactement, c'est ça, on est en train de repenser complètement. Alors, vous allez m'en raconter plus dans un petit instant, Mathieu Plane et Bernard Vivier. On est également avec Daphné qui nous appelle de Lyon dans une seconde. À tout de suite sur Europe 1 pour parler des jeunes. On ne veut pas que ce soit cette génération sacrifiée.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy et vos invités. Nathalie, on parle des jeunes aujourd'hui qui, à cause de la pandémie, ont du mal à trouver des stages, des premiers jobs. Vous pouvez nous rejoindre au 39-21.
Et oui, le chômage qui explose, hein, d'ailleurs, qui fait un bond de plus de 29% depuis la fin février. Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint à l'OFCE, est avec nous. Bernard Vivier, président de l'Institut supérieur du travail. Mes deux invités, merci d'être là. Et nos auditeurs, Daphné, qui nous appelle ce soir de Lyon. Bonsoir Daphné.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, vous avez 24 ans et vous étiez quasiment prête là à aller travailler dans une boîte de jeux vidéo en Chine, je crois. Hein.
C'est ça.
Qu'en est-il?
Je suis maintenant en fait dans un processus de visa qui est aussi rempli d'embûches et d'obstacles, notamment à cause du confinement et de la fermeture des frontières.
Bon, il est vrai que c'est la Chine, c'est pas nécessairement effectivement la destination qui était la plus évidente. Outre le visa... A priori, on vous avait confirmé ce job?
Oui, on m'avait confirmé, mais sous réserve de l'obtention de ce visa maintenant.
Bien sûr. Alors du coup, vous allez faire quoi, si vous ne l'avez pas?
Je suis dans le processus, et si je ne l'ai pas, je postulerai en France à d'autres offres, si possible. Mais ça sera sûrement plus des stages, alors que là, dans l'occurrence, c'était un contrat de travail.
Bien sûr. Bon, merci Daphné, bon courage à vous, on espère qu'il y aura bien le visa. Mathieu Plane, les stages, bien, c'est bien, mais encore faut-il être scolarisé, enfin, en tout cas, avoir une école ou une université sur laquelle on peut s'appuyer, parce que les conventions de stage, on ne les obtient pas comme ça.
Oui, oui, tout à fait, et on voit que malgré tout, en général, le diplôme est quand même un rempart hein, face au chômage. Là, on voit que malheureusement, beaucoup de jeunes, même qualifiés, risquent d'être en difficulté sur cette rentrée, notamment de septembre. Mais malgré tout, historiquement, ce qu'on a vu quand on avait des crises importantes, c'est que le diplôme était quand même permettait une insertion plus facile sur le marché du travail. Donc c'est vrai qu'en cascade, ce qui s'est beaucoup produit, c'est une forme de déqualification. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait un master, dans un premier temps, occupait d'un poste de quelqu'un qui avait une licence. Celui qui était en licence occupait le poste de quelqu'un qui était au niveau bac. Et celui qui avait niveau bac, en fait, occuper quelqu'un un emploi de personne sans diplôme. Donc, vous aviez en cascade comme ça des gens qui pouvaient trouver de l'emploi, mais une forme de sous-qualification. D'accord. Ce que vous retrouvez sur toute la trajectoire de carrière, ce qui est quand même très embêtant, c'est-à-dire que sur votre évolution de carrière et l'évolution salariale, vous avez des impacts qui sont durables. Et il y a des études qui l'ont montré, en fonction de l'année à laquelle vous rentrez sur le marché du travail, vous avez des répercussions durables sur le taux d'emploi et sur aussi l'évolution de salaire. Donc il faut faire attention, c'est pour ça qu'il est très important de réactiver très vite l'économie et l'emploi pour éviter qu'on ait des conséquences durables sur des générations.
Alors, admettons Bernard Vivier que les jeunes trouvent un job aujourd'hui, parviennent, parce qu'heureusement il y en aura quand même qui trouveront des contrats, même si ça va être compliqué, ça veut dire l'assurance de contrats plus précaires?
Oui, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une très très grande partie des contrats de travail signés par les jeunes sont des CDD, de l'intérim. Mais c'est une étape, parce qu'aujourd'hui, à peu près 90% des personnes qui ont un contrat de travail sont en contrat à durée indéterminée. Mais le CDD et l'intérim grimpent en très fort. Ouais.
Ce que vous venez du contrat première embauche, qui n'a pas existé, mais voilà, on va être dans une salve de contrats comme ça.
Mais ce que vient de dire Mathieu Plane pose bien la question. Le couple à bien prendre en compte, c'est économie-emploi. Ouais. Le mot diplôme est un élément de l'entrée vers l'emploi. Mais ce qui est important, c'est la qualification, la compétence. C'est la raison pour laquelle ce dont on parle là depuis quelques instants sur l'apprentissage, très développé ailleurs en Europe, notamment en Allemagne, c'est très important. Les familles, les étudiants, les lycéens sont très attachés à l'acquisition d'un diplôme. Mais plus en amont que cela, c'est le métier.
L'apprentissage.
C'est l'apprentissage. Un savoir-être également. Les entreprises, elles les donnent les connaissances, elles les forment, notamment par l'apprentissage. On a besoin dans les entreprises de garçons et de filles motivé
et prêt à attaquer, en fait.
Bien
prêt
sûr.
À... Et ça, sont des qualités personnelles. On entend donc effectivement votre petite préférence. Agathe nous appelle de Nantes. Bonsoir, Agathe.
Oui, bonsoir.
Bienvenue. Vous êtes en licence de communication, donc quasiment en vacances.
Information communication, oui.
Ouais. Alors, dites-nous.
En deuxième année. En fait, à la fin de chaque année, en fait, on doit faire un stage minimum un mois pour valider notre année. Mm-hmm. Et en fait, chaque année, l'année dernière, j'avais fait un stage dans la communication et là, je voulais m'orienter plus dans l'événementiel. Mm-hmm. Sauf qu'en ce moment, l'événementiel, durant cette pandémie, avec toutes les annulations de festivals les uns après les autres, les organisations culturelles, les événements, tout s'annule, en fait. Ouais. Donc, c'est vrai que les entreprises, les organisations sont pas forcément favorables à un stage, étant donné qu'ils doivent tout recaler, toutes les dates.
Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe si vous ne trouvez pas votre stage là avant les vacances ou pendant les vacances? Qu'est-ce qui se passe du côté de l'école?
Alors, ce qui est quand même rassurant, c'est que voilà, l'école est derrière nous. Tout à fait compréhensif de la situation. Donc, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'on allait quand même valider l'année. Il n'y avait pas de souci sur ça. Et que à la rentrée, justement, ils allaient mettre en place des stages express ou des stages un peu raccourcis pour quand même faire un stage. Et ça, on verra ça à la rentrée. Mais pour l'instant... D'accord. J'ai un peu arrêté de chercher. Je reprendrai peut-être en juillet. Quoi.
Bah oui. Merci beaucoup Agathe et bon courage à vous. Mathieu Plane, ils sont des milliers aujourd'hui à se dire mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et ils ont raison.
Oui, ils ont raison. On voit bien que, une fois de plus, l'économie et le marché du travail ont subi un choc exceptionnel à tout point de vue. Et les jeunes, on va dire, c'est la même chose fois deux. C'est-à-dire, eux sont vraiment, pour le coup, c'est les premiers à être victimes de ce choc-là. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir une deuxième vague de crise, qui sont les faillites d'entreprise, les plans de licenciement. On voit que ça commence à émerger. Mais les jeunes l'ont déjà subi, la crise. Ils sont déjà là-dedans. On le voit avec la précarité de l'emploi, les CDD, l'intérim. On le voit avec les stages. Mmh. On le voit avec les contrats saisonniers. Donc, ils le sont déjà dans la situation de crise. Et donc, c'est vrai qu'on n'a aucune visibilité. Et c'est ça qui est vraiment très inquiétant pour ces jeunes. D'où la nécessité de trouver vraiment un plan jeune. Parce qu'il ne faut pas oublier que les jeunes ont été quand même très solidaires
dans la crise.
Et dans, justement, les recommandations sanitaires qui ont été faites dans le confinement. Il faut qu'il y ait effectivement un revers de la médaille. Il faut qu'il y ait une solidarité envers ces jeunes.
Alors, et cette solidarité, c'est là-dessus qu'on conclura. C'est peut-être Emmanuel Macron, c'est peut-être de là que ça va venir. Et ça doit venir de là. Quand il dit qu'il fait cette obsession de sauver les jeunes, de sauver cette génération, une question politique majeure. Donc normalement...
Oui, pour une raison simple, c'est que les jeunes, par définition, ce sont les forces de rebond de l'économie et de la société. Ce sont les forces d'avenir, celles qui savent s'adapter et qui sont aujourd'hui frappées de plein fouet, ça vient d'être rappelé avec des chiffres terrifiants, et qui n'ont pas fini de grandir. Aujourd'hui, le chômage grandit parce que y a la... non-création d'emplois et non pas parce qu'il y a des licenciements, mais les licenciements se profilent à l'horizon. Donc il va falloir monter des actions, effectivement, un plan jeune.
Voilà, un plan jeune, on verra bien sûr avec vous. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer Bernard Vivet, Mathieu Plane, dans cette demi-heure consacrée à ces jeunes, évidemment, à cette nation qui n'a pas d'avenir, c'est ce qu'il craint. Le président de la République, il l'a dit et martelé. Après 20h, c'est musique sur Europe 1, soyez au rendez-vous. Émilie Mazoyer aux commandes, qui reçoit ce soir Olivia Ruiz, qui ne sort pas un album, attention, mais un premier roman, et puis le live Aretha Franklin en 1971, un classique. Et
Et voilà, vous connaissez le programme. Nous, c'est demain soir, même heure, 18h-20h, pour être à votre écoute et toutes les informations du jour. Évidemment, pour écouter ensemble Le Monde Changé. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à tous.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1. Europe 1.